Radio Okapi.
Babel Pongo à la présentation du journal.
Okapi.
Bonjour, nous ferons le point de la situation du transport en commun à Kinshasa. Une reprise timide est signalée et bien qu'il y ait toujours beaucoup de piétons. Encore des tueries au Nord Kivu. Des centaines de personnes sont mortes il y a une semaine à Oufamandou 1 et 2 dans Massissi, tuées par des FDLR et des Maïmaï. Des milliers d'autres personnes ont fui leur village. Justice, Thomas Lubanga fera-t-il l'appel? 2 mois après son jugement, ses avocats disent lire encore ce jugement de 700 pages avant de se prononcer. Ils ont tenu un point de presse hier à Bounia. Reprise timide du transport en commun aujourd'hui à Kinshasa, dans l'est comme dans l'ouest de la ville. Quelques taxis et minibus transportent des passagers sans être inquiétés. Cependant, la majorité de la population traîne aux arrêts de bus, d'autres qui n'en font carrément la marche à pied comme hier lundi. Michel Kifindangoy.
De Kitambo à Lemba, en passant par Bandalungwa, Kalamu, Limete et Matete, les taxis ainsi que les taxis bus, y compris quelques des 107, ont fait leur réapparition. Ils circulent sur les artères de la capitale et transportent des passagers, mais leur nombre est encore insuffisant, ce qui contraint des centaines de Kinois à traîner encore aux arrêts des bus. Fatigués d'attendre, d'autres poursuivent la marche à pied. Pendant ces temps, les taxis-motos sont de plus en plus nombreux sur les avenues de la ville. Satisfaits tout de même de la reprise du trafic, certaines personnes interrogées affirment ne pas être surpris de voir les transports en commun reprendre. Les conducteurs, quant à eux, estiment que c'est par souci de servir la population qu'ils ont repris les transports. Pendant ces temps, la police, qui est très visible sur les artères de Kinshasa avec des camions bondés de policiers, veille pour éviter des dérapages.
Parlons à présent de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Des centaines de personnes ont été tuées depuis une semaine par des présumés Maïmaï dans le groupement Oufamandou 1 et 2, c'est dans le territoire de Massissi au Nord Kivu. L'administrateur du territoire indique que des combattants Maïmaï locaux ont attaqué des rebelles rwandais des FDLR le 14 mai dernier. En représailles, des FDLR ont attaqué tous ces groupes qui vivent avec la population locale, ce qui est à la base de plusieurs tueries. Les notables de ce milieu démontrent l'envoi dans un bref délai d'une commission neutre pour enquêter sur les crimes perpétrés dans les villages. Rosalie Zawadi.
D'après les chiffres fournis par les autorités de ces secteurs, plusieurs centaines de personnes ont été assassinées à l'arme blanche par les combattants FDLR rwandais et les groupes Maïmaï qui les combattent. Les habitants de ces deux groupements ont fui vers Busurungi, Remeka et Katoy. L'un des responsables de ces milieux indique que les combattants de ces trois groupes Maïmaï ainsi que les FDLR tuent tout ce qui bouge à leur passage sans se demander s'ils sont civils ou pas. Hommes, femmes et même des très jeunes enfants, tout le monde y passe. C'est ce qu'illustre ici le chef de la collectivité secteur des Katoy à l'issue d'une rencontre avec certains chefs de village.
Le 19, ils ont tué toutes ces personnes pour contrôler le secteur. À Bitoui, ils ont tué 5 personnes, un homme et 4 enfants. À Kibati, ils ont tué 39 personnes et elles ont été enterrées hier. À Kiboua, ils en ont tué 36. Dans le village Kilima Nyakisozi, 47 personnes ont été abattues. Tous ces assassinats ont été perpétrés pour la seule journée du 19.
Les députés provinciaux élus de Massissi, Robert Seninga, sollicitent aussi l'envoi urgent d'une mission de monitoring pour vérifier toutes ces allégations. Pour sa part, l'administrateur du territoire de Massissi, qui déplore cette situation, demande au gouvernement de déployer les FRDC dans cette zone où l'armée régulière n'est pas représentée. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
En FDLR tué, 3 dépendants capturés et des armes récupérées. Un bilan d'une embuscade tendue par des militaires des FRDC du 108e régiment basé dans les territoires de Mwinga au sud Kivu. C'est précisément près de la forêt de Kashindaba, à la limite entre Mwinga et Kabaré. Le reste des FDLR avait pris fuite dans cette forêt selon des sources proches des FRDC basées dans cette région. Astrid Mwinga.
Cette embuscade fait partie des opérations lancées par les FRDC pour poursuivre les FDLR depuis les événements de Tchoulou et de Kishadou. Selon des sources sur place, les FDLR avaient pris l'habitude de s'introduire dans les villages environnant cette forêt après les opérations que menaient les FRDC pour la simple raison que ceux-ci s'est retiré de ces positions juste après leurs opérations, ce que la population avait maintes fois déploré. Cette fois-ci, les FDLR se sont laissés piéger car croyant que les FRDC s'était retiré comme d'habitude. C'est ainsi que hier, lundi, aux environs de 20h, les éléments de FRDC du 108e régiment ont tendu une embuscade au FDLR près de la forêt de Kashindaba dans le territoire de Mwenga. Un FDLR a été tué, 3 dépendants ont été faits prisonniers et des armes AK-47 récupérées. Le reste des FDLR ont réussi à fuir dans la forêt. Signalons que le dernier cas d'attaque FDLR dans ce secteur remonte à la fin avril dans la localité de Mulombozi. Bukavu, Arsène Mujinga, Radio Okapi.
Et en Ituri, des éléments des FRDC ont mis la main hier sur un des collaborateurs rapprochés de Morgan, ce chef milicien qui sème la terreur ces derniers jours dans le territoire de Mambasa au sud de Bunia. Jean-Pierre Toumbé a été appréhendé alors qu'il tentait d'offrir son collaborateur pour un lieu inconnu. L'information est livrée par des sources militaires sur place. Depuis Mambasa, Jean-Claude Kabala de la radio Hamkeni.
Jean-Pierre Toumbélé, collaborateur rapproché du chef milicien Morgan, est tombé dans le filet des éléments des FARDC basés à Biakato, à 80 km au sud de Mambasa. Selon le capitaine commandant second du régiment basé à Bafakindé, l'assistant de Morgan a été capturé grâce au service de renseignement militaire. Ce milicien était un ancien de la 41e brigade de l'ex-forces armées zaïroises. Il cherchait à s'infiltrer au sein de la population pour fuir après et partir vers un lieu inconnu. Au sein de la milice de Morgan, il avait la fonction d'armurier. Il est présentement acheminé à Bafassende. Rappelons qu'il y a 2 semaines, 26 personnes ont été tuées dans les affrontements entre les hommes de Morgan et les éléments des FRDC. Ces combats ont aussi conduit au déplacement de plus de 6000 personnes. Les FRDC est intervenu après le forfait commis par Morgan et ses hommes dans le village de Molende, Boulambimba, Tokobika et Itembo dans les territoires de Mambasa, notamment 70 femmes violées, ainsi que le vol de 500 grammes d'or, soit l'équivalent de 25 000 $ américains. Jean-Claude Kabala, Radio Mkini à Mambasa pour Radio Kapi.
Justice en Ituri, les avocats de Thomas Lubanga ont déclaré hier à Bunia continuer de lire encore le jugement prononcé contre leur client il y a plus de 2 mois avant de dire s'ils feront appel. Ils l'ont dit au cours d'un point de presse. Maître Catherine Mabi, responsable du cabinet de défense de Thomas Lubanga, indique que son équipe n'a lu jusque-là que les 200 premières pages du jugement rendu sur les 700 traduits de l'anglais. Elle attend la traduction du volume restant pour une réaction définitive au jugement. Au micro de Jean-Paul Bassila, elle donne certains éléments qui témoignent de la neutralité de juge malgré la condamnation de son client.
Le premier enfant soldat qui est venu témoigner dans le procès de M. Lubanga a déclaré qu'on lui avait appris sa leçon et qu'il venait dire là des mensonges. Ensuite, il s'est rétracté, mais il a commencé par expliquer qu'il avait menti. Thomas Lubanga a été déclaré coupable malgré le fait que la Chambre a exclu, premièrement, ses 9 enfants soldats, deuxièmement, et par ricochet, les 2 autres parents qui étaient venus témoigner en ce qui concerne ses enfants soldats. Elle a également exclu de la preuve les seules victimes de Mahagi qui avaient été amenées à témoigner, et elle les a exclues totalement de la preuve en indiquant dans son jugement que les témoins qui seraient venus témoigner avaient usurpé l'identité d'autres témoins.
Rappelons que Thomas Lubanga a été reconnu au mois de mars dernier coupable de crimes de guerre pour avoir enrôlé des enfants dans son groupe armé. Dans l'affaire, le procureur de la Cour pénale internationale contre Germain Katangala est, la défense a conclu hier ses plaidoiries. Pour les avocats de l'ancien milicien congolais, l'attaque du village de Bogoro en Ituri est née du désir de Kinshasa et du gouvernement central de reprendre les territoires orientaux tombés aux mains de l'Union des patriotes congolais, mais il est soutenu par l'Ouganda puis par le Rwanda. Des précisions avec Jeff Ngoy.
Germain Katanga et son co-accusé Mathieu Ngudjolo sont poursuivis pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre qu'ils auraient commis lors de l'attaque de Bogoro le 24 février 2002. Selon la défense, leur milice était à l'époque soutenue par Kinshasa. L'attaque de Bogoro n'était pas le tableau dressé par l'accusation d'un chef de guerre puissant, Germain Katanga, tombant sur le village de Bogoro comme les loups sur le troupeau pour étancher sa soif de vengeance ethnique, plaide son avocat conseil. Il poursuit qu'il y avait des intérêts bien plus puissants que son client, car indique-t-il, Kinshasa avait passé un accord avec Mboussa Nyamwisi, alors chef d'une autre milice, le RCD-KML. Pour la défense, Germain Katanga n'avait pas le contrôle sur l'opération conduite à Bogoro, qui, selon le procureur, aurait entraîné la mort de près de 200 civils. Les avocats de Katanga accusent le procureur de faire de l'amalgame entre un plan légitime et un plan criminel. Le plan criminel, soutient-il, était orchestré par Kinshasa. Ainsi, la défense accepte que l'accusé a participé à un plan légitime et ne nie pas la mort des civils à Bogoro. Mais elle s'oppose à la vision strictement ethnique du conflit présentée par le procureur. Aujourd'hui, c'est le tour des avocats de Mathieu Ngoudjolo de conclure leur plaidoirie.
Au Cassé occidental, l'Observatoire congolais de droits de l'homme condamne la non-exécution de 18 verdicts rendus contre des auteurs de viol à Ilebo par les tribunaux de grande instance du Lebo. Le responsable de cette ONG considère que cette situation favorise l'impunité. De son côté, le chef du parquet secondaire d'Ilebo affirme en lui que les procédures judiciaires se font dans la discrétion. André Kamala.
D'après le coordonnateur provincial de l'OCDH, depuis la clôture de la chambre foraine en fin mars, 18 personnes condamnées de viol sont toujours en liberté. Hubert Ngulandioko désapprouve ce silence du parquet secondaire d'Ilebo qui constitue, selon lui, une prime d'encouragement de bourreau. Ainsi, il pense saisir le procureur général près la cour d'appel de Kananga pour l'exécution de ses verdicts. Ce qui, au finish, sera, selon lui, une façon de combattre l'impunité au Kasaï occidental. Pour le chef du parquet secondaire d'Ilebo, 80% des dossiers traités par la chambre foraine n'ont pas rencontré d'obstacles. Ils ont porté sur des auteurs de viol déjà en détention préventive. Floribert Nkele ajoute qu'à ce jour, il s'apprête à lancer le mandat de prise de corps contre 20% des condamnés qui sont en liberté provisoire. Toutefois, il dit se heurter à l'indiscrétion des défenseurs judiciaires qui alerte facilement les concernés pour s'éclipser, d'où sollicite-t-il le concours de tous pour se saisir de ces condamnés. De Kananga, André Kambala Mujanaï, Radio Okapi.
Merci André, et merci à vous qui venez de suivre ce journal.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.